sera question dans ce magazine aujourd'hui de chants sacrés du yoga. Éric Weber, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Vous êtes le président de l'association qui s'appelle Le Chemin à la lumière du yoga. C'est une association qui est basée à Agde, c'est ça ?
Tout à fait.
Vous êtes aussi baryton.
Je prends aussi des cours de chant lyrique, donc je chante sur deux répertoires, à la fois le chant sacré de la tradition indienne et puis sur le chant lyrique.
Alors le chant sacré, c'est ce qu'on va essayer de faire découvrir aux auditeurs qui ne connaissent pas aujourd'hui dans ce magazine. Quel est le lien tout d'abord entre les chants sacrés et le yoga ?
Le lien est très intime, puisque la plupart des Occidentaux ne connaissent du yoga que la partie physique, la partie asana, alors qu'en Inde, le chant sacré est aussi une forme de yoga que l'on appelle le bhakti yoga, le yoga dévotionnel. Donc en Inde, cette démarche de chant sacré est tout à fait inhérente au yoga. Nous ici, on fait une différence, une distinction, alors qu'en Inde, certains ne font que pratiquer le bhakti yoga et donc les chants sacrés.
J'entends parfois parler, Éric, de mantra. Est-ce que le mantra est un chant sacré ?
Alors, on peut dire ça, bien sûr, parce que notre pratique du chant sacré est principalement la répétition, donc soit parler, et on parle de japa, ou chanter, et là on parle de bhakti yoga. Donc dans les bhakti yoga, cette invocation eh bien, est basée sur la répétition des mantras, tout à fait.
Le mantra, il est utilisé pour ses propriétés vibratoires très, très particulières. Il est porteur de quoi ?
Tout à fait, tout à fait. C'est un héritage qui est très, très ancien, puisque en Inde, ce sont les rishis. Les rishis, ce sont les sages qui avaient une connaissance directe, puisqu'ils ont expérimenté à travers leur corps et leur conscience, ils ont expérimenté la puissance de ces mantras, hein, qui sont des principes vibratoires. De même que la plupart des gens connaissent le Om, qui est chanté durant les cours de yoga et qui est considéré comme la vibration initiale de l'univers. Donc là, le Om, on le connaît, et donc les autres mantras, ce sont des liens vibratoires, et donc ces rishis de l'Inde ancienne nous ont fait ce legs. Ils savaient, si vous voulez, qu'en répétant certaines sonorités, hein, eh bien, on stimule en nous certaines vibrations. Donc il y a vraiment un lien très direct entre le chant sacré, le mantra et la puissance qui est dégagée à l'intérieur du corps humain.
Alors vous pratiquez donc le yoga, mais est-ce que vous exercez des chants sacrés ?
Alors tout à fait, moi j'ai une formation très traditionnelle puisque je suis dans la lignée de Shivananda qui était un sage indien qui a développé de nombreux ashrams dans différents pays du monde. Et dans cette formation donc, traditionnelle du yoga, le chant sacré a sa place vraiment importante. Et donc moi j'ai rapatrié ça dans mes cours, hein. Les cours que je donne sont plutôt très traditionnels. Les cours habituellement du yoga durent une heure et demie, et moi mes cours durent deux heures et demie. Ce qui me permet de commencer par des chants sacrés pendant une demi-heure. Mes cours commencent par une demi-heure de bhakti yoga, de chants sacrés. Et des fois, à la fin du cours, on rechante aussi un peu.
Quel est le but de pratiquer des chants sacrés dans la vie d'aujourd'hui, Éric Weber ?
Eh bien, ce serait à peu près la même chose que pour le yoga. La plupart des gens qui cherchent une paix intérieure profonde, je parle du vrai yoga, je ne parle pas du stretching, de la gymnastique, je parle du yoga tel qu'il doit être enseigné par rapport à ses racines indiennes. Le yoga vise à nous vraiment, à nous réconcilier avec une partie de nous-mêmes que nous ne connaissons pas vraiment. Donc ça, c'est plutôt le yoga asana, pranayama, méditation. Et le bhakti yoga, à travers les chants sacrés, a la même propriété. Les gens qui chantent le chant sacré, avec un côté dévotionnel, c'est pas du rock'n'roll ou du rap. Quand on se met à pratiquer le chant sacré, eh bien, on finit par faire apparaître en nous quelque chose. Il faut être assez ouvert à l'expérience. Et ça apporte, pareil, une espèce de bien-être, de calme, d'intériorité. Donc c'est très très puissant puisque c'est basé sur des principes vibratoires. Donc c'est à la fois très facile, mais aussi très très puissant.
Pourquoi conseiller les deux ensemble ?
Parce que les deux font sens. Alors ceci dit, les deux ensemble, moi je le fais durant mes cours de yoga parce que les personnes qui viennent prendre des cours sont habituées à ma pratique et sont adeptes de cette juxtaposition. Mais ceci dit, après moi je fais aussi ce qu'on appelle des kirtans ou des bhajans qui sont des soirées qui sont totalement dédié à cette pratique. Et là, en fin de compte, on laisse de côté le Raja Yoga ou le yoga traditionnel avec les postures. Et là, on ne fait que chanter. Donc, dans ce cas-là, moi, j'ai un harmonium hein, que j'ai ramené d'Inde.
Qu'est-ce que c'est ?
Un harmonium, c'est un petit instrument qui se joue par terre, hein, puisqu'en Inde, on est souvent assis par terre. Donc, la musique se pratique aussi assis par terre. Donc, l'harmonium est un instrument qui se pose sur le sol, et derrière lequel on s'assoit et on joue de l'harmonium et on s'accompagne vocalement avec l'harmonium. Souvent, on est accompagné par un tabliste, hein, c'est un percussionniste qui joue du tabla. Et pareil, le tabla est un instrument vraiment très traditionnel de l'Inde. Et donc, j'organise des soirées qui sont uniquement dévotionnelles, c'est-à-dire on laisse de côté le yoga et on ne fait que chanter. Voilà, donc ça arrive aussi.
Vous êtes venu, Eric, avec une clé USB, des morceaux de chants sacrés. Alors, il y en a un sur lequel c'est noté Chamundai, je ne sais pas si c'est...
Chamundaye.
Oui, Chamundaye. On écoute un extrait.
Merci.
Extrait de Chamundaye que vous nous avez apporté, Eric Weber. Au début, on entend qu'il parle d'Annapurna. Est-ce que c'est la chaîne de montagnes qui se situe au Népal, c'est ça ?
Alors, je pense qu'il y a un lien sûrement évident, mais après, dans l'Inde, il y a beaucoup de symbolisme. Hein, c'est-à-dire qu'à travers le mot, on cherche surtout l'essence des choses. Le mantra est fabuleux aussi pour ça. C'est pour ça que les chants sacrés sont puissants, puisque... le mot n'est intéressant que dans la mesure où il porte la vibration qui, elle, porte le sens. Un peu comme chez les catholiques, quand on dit que le verbe s'est fait chair, on a un peu cette similitude. Hein, le sens nous apporte à l'essence. Et donc, dans la culture indienne, dans les mantras, c'est pareil. Hein, le mot n'est qu'un prétexte à porter la prononciation. La prononciation amène la vibration et la vibration amène l'effet. Donc quand on chante les mantras, eh bien on se prête à ce jeu, hein, c'est-à-dire on amène notre corps à expérimenter quelque chose de très puissant. Hein. C'est vraiment de l'ordre de l'expérimental.
Alors concrètement, comment ça fonctionne ? Expliquez-nous. Et pourquoi, selon vous, c'est efficace ?
Ben, c'est efficace parce que notre culture occidentale est très rationnelle. Hein, c'est-à-dire que nous, on a besoin du microscope, des expériences scientifiques. Et les Rishis, les sages de l'Inde, ils avaient cette connaissance empirique depuis des millénaires. Hein. On sait maintenant que notre corps est dans l'infiniment petit et purement vibratoire. Et ça, on le découvre, nous, depuis 10, 15, 20 ans, alors qu'en Inde, cette connaissance était vraiment ancestrale. Donc on sait que nous sommes, par définition, des principes vibratoires. Hein. Et si on veut se changer, hein, si on veut changer nos plans de conscience, si on veut changer de paradigme, si on veut être davantage heureux, eh bien le mantra, le chant sacré, va travailler directement sur ce plan vibratoire. C'est très intéressant pour ça. C'est une forme de transcendance, c'est-à-dire qu'on passe par l'esprit, mais on atteint des zones beaucoup plus profondes. Et c'est pour ça que ça fonctionne très très bien.
Alors, est-ce que vous avez des résultats, des exemples concrets ?
Alors, si vous me posez la question avec cet esprit occidental qui aime bien justement avoir un maître ou un pèse-personne pour mesurer les choses, je vais vous dire que non, hein. Le yoga, de toute façon, est une démarche qui demande de la patience, hein. C'est pas comme les interrupteurs auxquels on est habitué maintenant, les télécommandes, on appuie et hop! Dans le quart de seconde, ça marche. Non, non, le yoga est basé sur la connaissance de l'être humain. On sait qu'on a des habitudes qui sont très ancrées en nous. Et pour déprogrammer, il faut au minimum s'investir à une pratique de yoga. Et c'est pareil pour les chants sacrés. Bien que le chant sacré a l'intérêt qu'il traverse très rapidement les obstacles du mental. Et même une personne qui vient pour la première fois à une soirée de chant sacré peut être bousculée intérieurement sur un plan émotionnel et être malgré elle, hein, transportée dans un état qu'elle n'aurait pas soupçonné. Donc ça, c'est intéressant de souligner ça parce qu'autant le yoga traditionnel demande parfois, hein, beaucoup, beaucoup d'expérience, autant dans une soirée de chant sacré, on peut basculer dans quelque chose, dans une expérience qui est très, très forte. Hein. Ça, c'est intéressant.
Éric Weber, alors pour préparer cette interview, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur ces deux mots, vous allez m'expliquer, le kirtan et le bhajan. Qu'est-ce que c'est ?
Alors la différence n'est pas énorme, hein. La différence, elle sera dans le fait que quand on pratique un kirtan, donc ça sera le même contexte, hein, harmonium, tabla, chanter. Le kirtan, je vais chanter une phrase, je vais chanter un mantra et je vais laisser l'audience le reprendre. Donc c'est participatif, le kirtan, je chante, tu chantes, je chante, tu chantes. Alors que le bhajan est plutôt l'expression du chanteur qui emmène les gens quelque part et ils peuvent chanter par-dessus. Voilà, donc c'est uniquement, vous voyez, une façon de pratiquer. Mais le fond est le même, on utilise les mêmes instruments et les mêmes mantras.
Alors vous proposez une date et un rendez-vous aux auditeurs qui sont intéressés le mercredi 4 octobre à 20h dans les locaux de Namasté à Agde. C'est un kirtan, justement, que vous proposez, c'est ça ?
Tout à fait. Alors, j'ai de la chance parce que j'ai une personne que je connais qui a une association à Hague qui s'appelle Namasté. Elle nous prête son local pour pouvoir, le mercredi 4 octobre à 20h, pratiquer un kirtan. Je serai en compagnie de quelqu'un qui s'appelle Frédéric Parment, donc qui, lui, chante des chants sacrés, mais plutôt amérindiens. Hein, donc Amérique latine, aussi des chants de l'Amérique du Nord, hein, les Sioux, les Dakota, tout ça. Et puis, il chante aussi des chants sibériens sacrés. Donc, il y a vraiment une tradition très, très riche, hein, que l'on ne connaît pas beaucoup. Et donc, on va mêler nos voix, on va mêler nos instruments pour animer cette soirée du 4 octobre dans ces locaux. Et donc, vous êtes conviés. En plus, Frédéric et moi, on demande des participations très, très basses. On va demander 8 € de participation. Pour cette soirée, donc vous aurez un numéro de téléphone sûrement avec cette émission pour nous contacter, réserver votre place. Et vous êtes les bienvenus, même si vous n'êtes jamais, même si vous n'avez jamais participé à ce genre de soirée.
Et puis, je crois que vous êtes en train de préparer une conférence que vous proposerez en fin d'année, c'est ça ?
Oui, je travaille parce que ça m'est venu comme un cheveu sur la soupe, si je puis dire. Le thème du yoga et de la mort, parce que le yoga est a une richesse inestimée, hein, et je pense que dans cette société qui est un peu anxiogène et qui nous amène, comme d'habitude, à nous poser beaucoup de questions, dont la question de la fin de vie, hein, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe après, comment gérer l'angoisse de la mort, eh bien je pense que moi, en tant que pratiquant du yoga, on peut trouver des clés, dans la connaissance du yoga, autant la connaissance intellectuelle mais surtout la pratique, hein, du yoga. Donc je travaille actuellement sur une conférence, hein, qui aura pour thème le yoga et la mort. Donc ça sera pour la fin de l'année.
Nous arrivons au terme de ce magazine. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Oh, je pense que non. Après, c'est important de savoir que la démarche du yoga et du bhakti yoga, donc le chant, il faut après dépasser le plan intellectuel, c'est-à-dire c'est bien de le savoir, mais l'effet réel sur notre corps et notre psyché ne démarre que lorsque l'on pratique, hein, le yoga, le chant sacré. On peut le connaître intellectuellement, mais on aura des résultats intéressants que si on met le doigt dans l'engrenage. Voilà. Je vous remercie en tout cas de votre disponibilité. Merci
beaucoup. Avec grand plaisir. Et pour des personnes qui voudraient expérimenter, passer à l'étape suivante, quelle est la marche à suivre ?
Eh bien, moi, je propose modestement des ateliers de yoga sur Agde. Nous avons 3 cours hebdomadaires. Et donc, bon, les personnes qui sont intéressées me contactent, même si c'est que pour discuter. Hein, je suis bien évidemment là pour partager le plaisir, la joie de pratiquer. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter pour les cours de yoga, pour le Bhakti Yoga, voilà. Je suis à disposition.
Rendez-vous sur Internet pour en savoir plus.
Tout à fait. Sur notre, on a une page dédiée à l'association qui s'appelle Le Chemin à la Lumière du Yoga, tout attaché, .fr. Et puis mon numéro de téléphone pour me contacter. Il n'y a aucun souci. Je suis là pour ça.
Merci Eric Weber. Je vous souhaite une très belle journée.
Merci beaucoup Jean-Pierre.